Europe 1,
11h30,
bien fait pour vous.
Julia Vignali et Mélanie Gomez.
De retour dans Bien fait pour vous, votre magazine dédié au bien-être et au mieux vivre. C'est jusqu'à 12h30 et dans la demi-heure qui va suivre, ça va être très sympa. On va ouvrir notre tour de table tendance. Ce moment dans l'émission dans lequel on vous fait découvrir nos meilleurs bons plans, ces tendances d'ici ou d'ailleurs que nos chroniqueurs vont dénicher ou même goûter pour nous.
Et oui Mélanie, alors je vous détaille un peu le menu. Hein. Dès midi, et c'est ce qu'on vous proposera désormais, on va plonger dans nos assiettes un peu de gastronomie avec Philippine Darblé, focus sur les nouveautés en matière d'huile d'olive, c'est bien ça?
C'est tout à fait ça, on va parler d'huile d'olive et de recommandations de chef.
On salive déjà. Et puis dans la bande, il y a aussi Cécile Coumeau, notre spécialiste des tendances pour les jeunes de 50 ans et plus. Mais aujourd'hui Cécile, vous avez mouillé la chemise et vous avez pris volontairement quelques rides et quelques rhumatismes, c'est bien ça?
Exactement, j'ai testé un simulateur de vieillissement, pour toucher du doigt ce que c'est la perte d'autonomie et rapprocher les générations en fait.
Ah, intéressant. Et puis enfin, ce sera vous, Sophie Braffman, qui nous ferez découvrir une tendance. C'est toujours du côté de la mode avec vous que ça se passe. Et en plus, aujourd'hui, c'est le lancement de la Fashion Week à Paris. Alors, votre thème du jour, votre question même du jour, est plus importante que jamais.
Non, mais sommes-nous vraiment en mode Fashion Week cette semaine? Sommes-nous de vraies Parisiennes? Ou juste, la Parisienne est-elle une licorne? Elle n'existe peut-être pas. On va se poser la question.
Ah, super. Merci beaucoup, Sophie. On vous retrouve dans quelques minutes. Et tout de suite, je décrète, ouverte, notre table des tendances.
Allez, c'est parti pour la séquence tendance de cette émission. Notre bande de chroniqueurs, de chroniqueuses, que dis-je, est bien installée avec nous dans ce studio. Et il est midi, alors place à la gastronomie, parce que soyons honnêtes, l'émission s'appelle « Bien fait pour vous ». Qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien, Julia, dans la vie? La barbe, les massages, bien digérer, tout ça.
Bien manger, hein, bien manger, bien manger, déguster, et pas d'ailleurs que des choses pour garder la ligne. Quoique le produit savoureux dont on va parler avec vous, Philippine Darblé, c'est très bon aussi pour la santé. Philippine, on y va, faites-nous saliver.
Bah oui, très jolie introduction, merci beaucoup. C'est vrai que dans cette émission, vous parlez de bien-être, on parle de conso aussi, pour savoir un petit peu quels sont les produits à avoir chez soi. Et si dans la cuisine, il y a bien un ingrédient important, surtout pour manger plus sainement, c'est...
l'huile d'olive.
J'aimerais bien vous dire le beurre, parce que je suis un peu une...
Mais non,
ah,
vous
fan,
êtes normande, bretonne.
Non, c'est pas... un petit peu, exactement.
D'accord.
Mais bon, l'huile d'olive est un petit peu plus saine, ça c'est sûr. Bon, et évidemment, hein, quand on veut manger plus équilibré, il faut plus de légumes, entre autres, et donc un meilleur assaisonnement, ce qui est quand même le remède anti-boring pour transformer une salade en bombe atomique, il faut le dire. Alors l'huile d'olive, évidemment, on le sait, elle est excellente pour la santé, elle est riche en oméga 9, elle diminue le risque de maladies cardiovasculaires, elle baisse le cholestérol. Elle est riche aussi en antioxydants. On parle de
c'est
ralentissement.
C'est un produit magique en réalité.
Ouais,
hein. C'est presque un médicament, on dirait.
Ça l'est. Oh, c'est vrai, ça commence par la nourriture, hein, les médicaments. Et qui mieux que les chefs pour vous aider à choisir votre huile? Alors, j'ai d'abord interrogé un chef qui s'appelle Simone Tondo, qui est sarde, qui est aux manettes du restaurant Racine à Paris, qu'il décrit comme une bistro-stéria. Donc, c'est un mélange entre bistro et osteria. Et voilà ce qu'il me répond quand je lui demande ce que c'est pour lui l'huile d'olive et surtout comment il l'a choisie.
Moi, l'huile d'olive, c'est un produit qui fait partie de notre archive des goûts. J'ai choisi mon huile par rapport à sa provenance, par rapport au type d'utilisation. Donc, un huile plus léger et plus fruité sûrement du Nord, Ligurie, et un huile un peu plus corsé, plus fort et plus présent, sûrement du Sud, donc Sicile, loin de Sardaigne.
Et quand je lui demande les marques qu'il utilise...
L'huile d'olive, c'est quelque chose que, dans ma culture, tu achètes à des gens que t'aimes, pour sauvegarder certains terrains et entretenir de belles relations, d'amitié. Donc, on peut aller en Grèce avec son Ralis, donc Profit Grec, qui est un super copain. On peut aller en Sicile. Il y a Cédric Casanova qui fait une grande huile d'olive. Vraiment, il y en a tout. On n'a pas vraiment un huile phare, on en a plusieurs et sont tous très importants dans notre cuisine.
Bon, si j'ai bien compris, pour choisir l'huile d'olive, en fait, il faut opter pour l'amour, hein, c'est ça, Philippine?
Exactement.
Il en utilise donc des différentes d'huile d'olive?
Oui, c'est ça. Il explique tout à fait qu'il utilise entre autres celle de Cédric Casanova, hein, il le cite, ou celle d'Alexandre Alice, par exemple avec une ricotta maison, de l'origan et du poivre et du sel. Et en conclusion, il rappelle...
Des fois, l'huile, il peut être un ingrédient qui tient un plat entier. Voilà, c'est un peu ma lettre d'amour à l'huile d'olive.
J'adore. Bon, alors direction le sud de la France maintenant, avec Pierre-Antoine Denis, fondateur des restaurants à succès Otto et La Cantinetta à Marseille, qui est un fou, là encore, de l'Italie. On l'est tous, mais lui aussi. Et d'ailleurs, il va évidemment souvent pour enrichir toutes ses inspirations. Lui utilise une huile de Sicile, cette fois, de la variété Tonda Iblea. Alors Tonda, c'est une abréviation pour ronde, rotonda. Voilà, et Iblea, en fait, ça fait simplement référence aux montagnes qui poussent où pousse la variété. Certains disent qu'elle a le goût de l'ancien sol sicilien.
Mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'endroits qui en produisent, non ?
Oui, effectivement. Alors Pierre-Antoine, lui, utilise plus particulièrement celle de la ferme Cinquecolli. Ah voilà, ça y est, on y est presque.
Pourquoi celle-ci en particulier ?
Bah, pour ses notes d'herbes
fraîches.
Vous n'en
avez pas amené, j'aurais bien goûté, moi.
Mais si, attendez, je vous les montre juste après.
Elle a donc des notes d'herbes fraîches, vous disiez.
Exactement, et parce qu'elle s'accorde bien avec beaucoup de plats, notamment, alors, tout l'été, il a cuisiné un carpaccio de courgettes paysannes coupées très finement en rondelles, bien salées. Moi, personnellement, ça me fait saliver à cette heure-ci.
Carpaccio de courgettes, c'est délicieux, moi j'adore.
C'est toujours la même chose.
Avec quelques herbes, un peu dessus, une bonne huile, effectivement.
Exactement, ça suffit. Bon, et enfin, le chef Zach Gana, de la nouvelle adresse à Paris qui s'appelle Lolo Cave à manger, utilise une toute nouvelle marque tunisienne qui s'appelle Kaya, alors ça s'écrit K-A-I-A, qui est faite à base de la variété Chemlali, et il en fait entre autres une ganache chocolat, huile d'olive, fleur de sel.
Ouais.
Alors Kaya a été fondée par Sarah Ben Romdan, qui a 27 ans, qui est une ancienne journaliste, et elle produit cette huile depuis une propriété familiale qui a des oliviers évidemment centenaires, et ce depuis 5 générations. Et du coup, elle nous explique un peu le patrimoine historique de l'huile tunisienne.
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'olivier est intimement lié à la culture tunisienne, puisque les premiers arbres sont arrivés en Tunisie avec les Phéniciens, et que depuis, la culture n'a cessé de se répandre, notamment à l'époque romaine. Kaya est donc une huile d'olive fièrement enracinée dans le riche patrimoine tunisien, et qui est produite avec conscience, dans le respect de nos traditions ancestrales, de la terre et des hommes.
Alors, c'est très joliment dit. Effectivement, ce que nous dit Sarah, en fond, si je puis dire, c'est que la Tunisie a en fait souffert d'une image peu qualitative à force d'avoir produit en gros pendant de très nombreuses années. Et du coup, ça gâche un petit peu cet héritage et cette historique qui est énorme et existant. Donc, la marque a pour elle mission de redorer le blason du pays.
Mais dites-moi, Philippine, j'ai l'impression que même les chefs se mettent à en faire, non ?
Exactement. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Mauro Colagrico.
Oh, on l'adore, mais ouais, oui, évidemment. Ça sent déjà l'huile d'olive dans ce studio.
Par définition, il est très pro en la matière.
Un menton,
moitié argentin,
bien sûr.
Moitié
au Mirazur.
Exactement. Mirazur a été décerné meilleur restaurant au monde. Il y a aussi le chef que vous devez connaître aussi, Juan Arbeales, qui est un chef colombien qui se trouve à Paris, qui a plusieurs restaurants, qui s'est associé au frère Chandios pour créer une marque qui s'appelle Calios. Voilà, en conclusion, quelques petits conseils. Toujours privilégier des huiles pressées à froid, vierge extra, estampillées à AOP ou AOC, d'ailleurs les deux, et plutôt des bouteilles en verre ou des bidons de fer, hein, c'est mieux pour la conservation. Maintenant, à table et à la prochaine.
Mais ils sont où les huiles d'olive ?
Eh ben voilà, ne bougez pas.
Oui, on va voir ça. Moi, en tout cas, cette chronique, elle me conforte dans mon mantra quotidien. L'huile d'olive, c'est la vie. Vous êtes d'accord, Sophie Braffman, même si vous faites la mode.
Bah alors,
que
cette semaine, je vais m'abstenir. Je ne prendrai pas d'huile d'olive, mais en général,
parce
je suis d'accord.
Parce que c'est la Fashion Week, on ne mange pas ?
Non, on ne mange pas du tout, d'ailleurs. Je me sens un peu mal. N'hésitez pas, je vais défaillir.
Et vous, Cécile ?
Moi, je suis d'accord, parce qu'on voyage, rien qu'en consommant de l'huile d'olive, on va en Sicile, en Sardaigne.
Elles sont belles.
Moi, sur un petit bout de pain, un petit cliché avec un peu de sel.
Exactement.
Bon, ça suffit. Restez ici toute la bande autour de la table. On revient dans un instant parce que maintenant qu'on est bien rassasié, enfin presque, par les conseils cuisine des Philippines, on va se glisser dans un simulateur de vieillissement. Alors vous allez voir, c'est très étonnant comme expérience, comme vous allez l'entendre. Et puis avec le coup d'envoi de la Fashion Week, on va s'intéresser sur à la femme, enfin la
parisienne. Elle mange plus, mais elle a des trucs à nous raconter.
Exactement. Mais surtout, est-ce que la parisienne existe ? Est-ce que c'est un mythe ou une réalité ? Femme, licorne ou vraie nana ? On va tout vous expliquer.
Europe 1, bien fait pour vous. Mélanie Gomez, Julia Vignali.
C'est bien fait pour vous jusqu'à 12h30 et nous sommes toujours en studio dans cette dernière demi-heure consacrée à toutes les tendances du moment, celles qui nous font du bien ou qu'on meurt d'envie de découvrir. Passons maintenant aux bonnes idées pour nos auditeurs en pleine maturité, les quinquas et plus. Et aujourd'hui, Cécile Coumeau, vous allez nous parler d'un simulateur de vieillissement que vous avez testé rien que pour vous. Ça se voit pas, hein ?
Rien que pour nous !
Bah en fait, le but, c'était de me mettre dans la peau d'une personne âgée qui commence en fait à perdre son autonomie. Parce que se mettre à la place d'eux, eh ben, y a rien de mieux pour développer l'empathie en fait. Et comme autour de 50 ans, ben, beaucoup d'entre nous, on a des parents dans le quatrième âge, je me suis dit que ça serait peut-être utile. Quoi.
Bon ok Cécile, mais concrètement, vous avez fait comment pour faire un voyage dans le futur et prendre 30 ans d'un coup? Dites-nous surtout qu'on ne le fasse pas.
Si, si, vous verrez, c'est utile, il faut le faire. Mais j'ai fait appel à Jean-Paul Lechien qui a créé donc un simulateur de vieillissement. Il se compose en gros de trois éléments. Différentes lunettes qui vous donnent la vision de quelqu'un qui souffre de cataracte, de glaucome ou de la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la DMLA. D'un casque qui simule la presbyacousie, c'est-à-dire donc la perte d'audition liée à l'âge, et d'un exosquelette qui limite votre motricité.
Mais c'est quoi un exosquelette ?
Alors, un exosquelette, en fait, c'est composé de sortes de prothèses qu'on va mettre sur les mains, sur les bras, les jambes, et qui se fixent avec de simples scratchs. Mm-hmm. Ça ressemble en fait à ce que vous mettez parfois quand vous êtes fait une entorse. Sauf que le but là, ben, c'est de limiter les flexions et extensions des articulations, ah, comme si vous souffriez en fait de rhumatisme.
Donc vous ressentez avec cet exosquelette et puis tout l'attirail là, les douleurs rhumatismales.
Non, alors,
quel bonheur.
Non, non, quand même pas. Donc justement, donc c'est pas tout à fait quand même la vérité, mais on a l'impression en fait que tout est ralenti. J'ai essayé de mettre mes lunettes, ça m'a pris 3 minutes, mais je n'étais pas au bout de mes peines. J'ai fait le test des escaliers.
Alors, on va essayer tout d'abord de monter.
Oui, c'est vrai que c'est moins, ça fait moins peur, déjà.
Alors, il faut tenir la rampe.
Alors, ah ben, alors j'enlève la canne, alors, parce que je ne peux pas tout faire. Hein.
Voilà. Donc, une marche à la fois.
Oui, alors, je me rends compte que je suis très au bord de la marche. Ouais. C'est rigolo, parce que je vois ma mère, elle fait ça, d'ailleurs. Et elle met que le bout du pied sur la marche. Et là, je viens de me rendre compte que je fais la même chose. Et à chaque fois, je dis, mais maman, mets ton pied au fond.
Elle peut pas.
Mais ouais, et c'est pour ça qu'elle est déjà tombée dans les escaliers, hein, je vous le dis.
Oh, on le sent, hein, wow. Franchement, c'est immersif, c'est incroyable.
Et donc, vous voyez que le but recherché, en fait, qui est bah, de mieux comprendre ses proches, hein, ses parents, enfin voilà, eh bien, ça marche. Et l'expérience, croyez-moi, était loin d'être finie.
Ça, c'est quoi ? C'est pour mettre autour
ça,
du cou ?
Ça, c'est pour simuler les rhumatismes du cou.
Ah ouais ? D'accord, parce qu'on a
essayer
aussi...
De
des rhumatismes, on en a partout, en fait.
Ouais.
Essayez de faire un créneau.
Un créneau.
Alors,
parce qu'il y a le siège, il y a le siège qui vous tient là.
Ah ouais, alors, attendez. Ben là, je peux regarder juste à droite là, mais je peux pas regarder derrière, c'est impossible.
Tout à fait.
C'est impossible. Donc il faut que je me gare en épi ou alors je conduis plus quoi. En gros, c'est ça.
C'est ça, hein, je pense.
C'est
à un moment donné, ça se demandait effectivement. On a l'impression d'entendre les vertèbres craquer.
Non, mais c'est sûr qu'avec ça, on comprend bien que progressivement, il y a de nombreux actes de la vie quotidienne qui sont carrément limités.
C'est oui, c'est ça, exactement. Et je vous fais grâce du moment où j'ai essayé d'aller aux toilettes avec le simulateur de vieillissement. Heureusement que j'avais des abdos pour me relever, hein, quand même.
Et cette perte de mobilité, Cécile, elle s'accompagne d'une perte de confiance, j'imagine. Quand on porte tout ça, là, ça a dû vous donner un bon exemple. Hein.
Oui, notamment parce que ce qui rajoute, c'est que les sens sont affectés, la vue, l'audition, comme je vous le disais. Et du coup, tout ça, ça finit par créer finalement des tensions entre aidant et aidé. Et je l'ai encore très bien compris quand j'ai mis les lunettes simulant la cataracte et que je suis sortie sur mon balcon.
Ah oui.
Attendez, je vais passer devant.
Ah, c'est encore pire. Effectivement, la vision en plein soleil, c'est comment dire ? Oh là ! Ouais, d'accord. C'est... Ça fait des...
Ah, c'est... On est au-dessus du Mont Blanc, là.
Ouais, c'est ça, on est au-dessus du Mont Blanc. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas au-dessus du Mont Blanc, quoi. C'est quand même beaucoup moins sympa.
D'où le fait que quand un grand âge, on a ce temps-là, on ne le sort pas. Parce que là, il va vous trouver une ruse. Oh non, j'ai pas envie, j'ai mal digéré. Mais il fait beau !
Et oui, on va s'énerver parce qu'on...
Pourquoi tu veux pas sortir ? Il fait beau !
C'est incroyable.
Ouais.
Ah ouais, on pense tous à nos grands-parents.
Oui, c'est ça, exactement. Mais en fait, pour moi, en tout cas, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, l'expérience la plus étonnante, c'était liée à la perte d'audition avec ce casque qui finalement vous donne l'impression d'être au fond d'une piscine.
Alors, juste un truc là. Est-ce qu'on peut enlever les lunettes cataractes? Là, ça commence à me faire mal au crâne. Oh la vache.
Non, parce que...
Attendez, vous venez de m'enlever le casque. Là, c'est un bonheur de récupérer. C'est une expérimentation. C'est de retrouver aussi... On sent vraiment la différence. Enfin, je suis vraiment beaucoup plus dans l'instant présent, en fait, en retirant ce casque qui assourdit tout.
Vous voyez que le but de départ, hein, donc c'est vraiment hyper instructif. Alors évidemment, pour bien faire, il aurait fallu que je le teste toute la journée pour pouvoir se rendre compte de tous les actes de la vie quotidienne. Hein. Mais finalement, se mettre à la place d'eux, c'est vraiment la meilleure des solutions, enfin une des très bonnes solutions pour comprendre son aidant et arrêter de s'énerver en fait. Hein.
Philippine, ouais, moi, vous avez testé l'huile d'olive, c'était plus sympa que tester le
mais bon. Non, mais déjà, merci pour ce sujet parce que c'est vital pour tout le monde de comprendre ça. Après, ça me rappelle un autre, on a vu beaucoup de vidéos qui sont peut-être moins nostalgiques, mais pas mal de simulations de crampes, de femmes enceintes, de
vous savez, contractions.
Ouais, de contractions, merci. Vous voyez que je ne suis pas encore passée par là.
Oui, voilà.
Mais il y a eu pas mal de simulations comme ça pour essayer de comprendre la personne et c'est assez fascinant.
Et ils l'ont fait sur des hommes. Ils ont simulé des contractions.
Exactement. Mais le Jean-Paul Lechien qui fait ce simulateur, il a fait un simulateur de grossesse pour que les hommes puissent se mettre incroyable. À la place
et pour les nausées, ça serait pas mal aussi. Simulateur de nausées pour les hommes.
Sophie Braffman, on peut aller à la Fashion Week de Paris avec tout cet attirail.
Mais
là,
bien sûr,
je suis sûre qu'il n'y en a aucune qui l'a osé.
Et vous allez être super bien reçue. C'est ça qui est agréable.
Les grosses actus, justement, c'est la Fashion Week à Paris.
Et oui, vous allez nous parler d'une femme ce midi et de quelle femme, la parisienne. C'est fait fantasmer le monde entier. Mais la question, c'est existe-t-elle vraiment?
Peut-être est-ce bien une licorne. Enfin, on va faire un petit récap déjà sur cette Fashion Week qui arrive aujourd'hui à Paris. Alors évidemment, après New York, après Londres qui vient de finir, on espère que la nôtre sera aussi haute en couleur. Alors à Londres, il manquait quand même deux mastodontes du luxe, Burberry et Victoria Beckham. Alors Victoria était sans doute en train de réfléchir à un nouveau projet d'aménagement de son territoire. On lui a refusé la construction d'un lac artificiel dans sa grande maison du domaine de Abbotswood, qui est la maison la plus chère du Royaume-Uni, au motif que ce lac artificiel n'était pas très écolo. C'est dommage, on peut plus faire du jet ski le week-end sur son lac artificiel. Donc elle était pas très contente, elle a boudé cette Fashion Week. Du coup, il y avait de la place pour la jeunesse et l'avant-garde, avec notamment le trublion Richard Quint. Est-ce que vous en avez entendu parler ?
Non.
Alors, il a fait défiler Lila Moss, c'est l'instant fille d'eux, donc la fille de Kate, évidemment. L'année dernière, avec des chats et des chiens en latex, mais ça ne s'arrête pas là. On a continué à faire preuve d'imagination pour la collection printemps-été, du color block, du rouge bien visible, un monsieur avec des cuissardes en vinyle jaune, un gigantesque sac en forme d'anneau de piercing et des combinaisons, j'ai pensé à vous les filles, cagoules en fleurs. Oui, quand on se fait fouetter chez Richard, c'est avec des tiges d'hortensia. Donc c'est l'esprit SM à l'anglaise, un peu drôle et décalé. Voilà, c'est un peu une façon de raisonner la mode en Angleterre.
Non mais d'accord, mais Londres, c'est pas Paris. Vous pensez que ça sera aussi créatif et original ici?
Alors, je l'espère, Julia, je l'espère de tout cœur. Ce soir, nous avons quand même le défilé de Marine Serre, qui est la reine de l'upcycling et de la création intelligente. Alors, son défilé s'intitule Fichu pour Fichu. Donc, bon, côté espoir, faudra repasser. Par contre, on espère donc que Paris sera aussi créatif et les Parisiennes au rendez-vous. Parce que la Parisienne, elle est un peu plus timorée. Elle crie moins, elle boit moins, elle ose moins. Bref, a priori, elle serait même peut-être un peu chiante. Pourtant, on la célèbre partout. À la Samaritaine, ça n'a pu vous échapper, qui vient de rouvrir ses portes. Et ce week-end se tenait au Crillon un événement intitulé La Parisienne au Crillon, ça c'est vraiment Paris. Une réunion de jeunes marques organisée par Amandine, la fondatrice de The Réunion. Alors j'ai voulu comprendre avec elle, mais qui est vraiment cette Parisienne ?
La Parisienne, c'est quelqu'un qui est né à Paris et qui est né avec un sens inné du style. C'est quelque chose qui est tellement naturel et spontané que je pense que ça fait un peu envie, parce que même en travaillant la question, c'est difficile d'atteindre ce niveau de coiffé décoiffé, de chic naturel.
Sur le coiffé décoiffé, je me sens assez concernée là ce matin. Alors, pour le coiffé décoiffé, surtout décoiffé, pour ma part. Donc, si je comprends bien, on est toujours sur le mythe Caroline de Maigret, Inès de la Fressange. Une belle brune filiforme, très grande, avec un panier en osier, un vélo électrique acheté chez Ancel Marcel à plusieurs milliers d'euros et un air tout à fait naturel, malgré une bonne heure de préparation. Alors, j'ai rencontré à la suite Charlotte, suédoise, née à Paris, donc parisienne d'adoption, créatrice de la marque Linéa Lund, qui sont de très jolis cachemires. Et je me suis dit peut-être qu'elle voyait autre chose derrière le mythe de cette Parisienne.
En fait, la Parisienne, elle est mais snob, mais sans être hautaine. Je pense que ça, pour moi, c'est la nuance. Être snob parce qu'on aime les belles choses et qu'on apprécie les belles choses, surtout, c'est pas forcément négatif.
D'accord. Et la Suédoise, elle est comment alors ?
La Suédoise, alors elle est sportive, humble, sympathique et puis je pense qu'elle est très décomplexée.
Sophie, est-ce que vous pensez qu'il y a une Parisienne autour de la table, là, d'ailleurs, après tout, maintenant que votre enquête est quasiment au bout, là,
laquelle ?
Je dirais Philippine. Pour une raison très simple.
Elle se cache, je pense qu'elle est Parisienne.
Non, parce qu'en
fait, elle l'assume pas.
Elle a porté toute l'esthétique du goût du moche. Et donc là, je me suis dit, forcément.
Je me suis reconnue dans toute la chronique.
Mais c'est parce qu'elle a le style détendu, Philippine.
Non, elle est totalement. Après, attention, on est un peu toutes des Parisiennes d'adoption aujourd'hui, mais là, on est un peu sur un cliché, évidemment, de la Parisienne. Alors, comparativement à la Suédoise, elle a l'air quand même vachement plus détendue.
Ah oui, complètement.
Vous êtes d'accord, Julia ?
Complètement.
complètement.
Vous êtes parisienne, vous, Julia ?
Moi, je suis née à Paris, mais j'ai...
Vous avez des origines...
Ailleurs ? Non. Ouais. Je suis née à Paris, mais je ne ressens pas à une parisienne.
Vignali, ouais, ça sent un peu l'huile d'olive,
c'est
quand
ça,
même, excusez-moi.
Je vous trouve quand même très détendue et très cool pour une parisienne.
Ah, je vous remercie.
Alors, voilà, alors la suédoise, c'est normal hein, qu'elle soit plus cool. Évidemment, elle fait de la gym, elle sait monter des meubles Ikea sans se casser un ongle et elle mange quand même du saumon mariné sur du pain noir au petit-déj. Forcément, il n'y a pas de quoi être snob dans un contexte pareil. Alors, j'ai croisé ensuite une influenceuse qui, donc, est comme nous, une parisienne d'adoption, Amélie, et qui n'est pas née à Paris. Et je lui ai demandé s'il y avait des petits tips pour devenir parisienne pour celles qui ne le seraient pas.
Marcher dans la rue, lâcher ses cheveux, prendre un vieux panier de plage, aller manger une glace au jardin des Tuileries, regarder le soleil briller, boire un verre de vin en trop. Voilà, c'est un peu tout ça être parisienne.
Ok, il va falloir qu'on s'entraide, Mélanie. Hein.
Vous avez compris, les filles. Alors, ouais. Ça va être compliqué de rester totalement chic avec un verre de vin rouge dans un parc et décoiffé. Hein. Faites bien attention.
C'est
quand même.
Ça. C'est pour ça que je suis très fière d'être
sous la perpignanaise. Merci beaucoup, Sophie.
Merci à vous toutes. On a passé un très bon moment grâce à vous trois.